Attendez, j'ai encore rien dit. Bonsoir et merci d'être là. Merci de votre accueil qui me fait plaisir. Donc pour ceux que je n'ai pas vus hier, juste redire deux mots. Je viens de Compiègne, de l'église baptiste de Compiègne. Et je vous salue au nom aussi de cette église, de cette communauté. Alors hier, effectivement, on a parlé de la communauté comme une famille, essayer de réfléchir aux implications de cette idée, de cette notion-là. Et ce soir, comme vous le voyez, on va parler de la communauté, mais de la nécessité de demeurer centré sur Christ. Une communauté chrétienne, il faut qu'elle soit chrétienne, centrée sur le Christ. Vous savez, dans les évangiles, Jésus pose parfois des questions à ses disciples et il sait, lui, que si on donne la bonne réponse, ce sera comme une clé qui permettra d'ouvrir et de découvrir un merveilleux trésor. Mais il faut trouver la bonne réponse. Et ses disciples, parfois, ne le savent pas, ne s'en rendent pas compte sur le moment, mais le fait est que quand ils ont la bonne réponse, qu'ils l'aient trouvée eux-mêmes ou que Jésus le leur donne, eh bien un coffre, oui, comme un coffre plein de bonnes choses, plein de bénédictions s'ouvre devant eux. Et parfois, une bonne réponse, oui, c'est la clé, c'est comme une clé qui ouvre un trésor, et c'est exactement ce qui se passe dans le passage que j'aimerais lire avec vous ce soir, que l'on va méditer, qui va nous accompagner tout au long de cette soirée. Et la question que pose Jésus, c'est « Qui suis-je ? » Qui suis-je ? Qui est Jésus ? Et quand on répond bien à cette question, eh bien oui, on a comme une clé qui nous permet d'ouvrir un trésor merveilleux, et ce trésor, c'est Jésus lui-même qui l'offre à celles et ceux qui confessent qui il est. Alors, on continue ce soir de réfléchir à cette notion de communauté chrétienne. J'aimerais rappeler que la communauté qui confesse Jésus-Christ comme roi, comme fils, comme Dieu, la communauté qui a trouvé en Jésus son Seigneur et son Sauveur, c'est une communauté qui, de fait, est richement bénie par Christ lui-même. Cette communauté, elle appartient à Christ, elle repose sur Christ, elle trouve son sens en Christ. Elle vit en Christ, elle vit pour Christ, elle œuvre pour Christ. Bref, Christ est son tout. Et en étant centré, en étant focalisé sur lui, sur Christ, eh bien, elle est richement bénie, de fait. Mais il faut rester centré sur lui. Parce qu'on le sait, il y a bien des tentations, il y a bien des tiraillements dans nos vies et dans la vie de nos communautés qui font qu'on pourrait se décentrer, prendre des chemins de traverse parfois. Il faut rester centré sur lui pour demeurer une communauté chrétienne. Et c'est ce que j'aimerais rappeler ce soir. Christ est vraiment la raison d'être, le sens, le début et la fin de la communauté chrétienne que nous formons. Il ne faut jamais l'oublier. C'est lui qui nous définit et rien d'autre. Mais à partir du moment où nous dévions de cette réalité-là, à partir du moment où on relativise cette réalité-là, où nous nous définissons par d'autres choses, eh bien, nous nous mettons en danger en tant que communauté. Christ doit demeurer le centre, le focus. Alors, je vous invite à lire ce texte maintenant. Un texte des Écritures un petit peu difficile, vous le connaissez. Et j'imagine que vous avez des questions à propos de ce texte-là. Il n'est pas simple, il y a beaucoup de notions qui nous étonnent et que nous pouvons avoir du mal à interpréter. Matthieu 16, versets 13 à 20. Le texte s'affiche donc. Et nous lisons. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, Qui est le fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Et Simon Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jusqu'ici notre lecture. Pierre, donc, on l'a lu, Pierre en apportant la bonne réponse à la question Qui dites-vous que je suis? Pierre a ouvert, je pense, oui, un merveilleux trésor. Avec cette clé, quelque chose s'est ouvert devant lui et c'est extraordinaire ce qui lui a été donné de voir. Je crois qu'il ne s'y attendait pas, mais Jésus a rebondi sur sa réponse et il lui a offert en retour un trésor de vérités multiples, plus extraordinaires les unes que les autres. Et ce que je voudrais montrer ce soir, c'est que ces vérités sur l'Église sont toujours d'actualité pour nous. Jésus s'est adressé à Pierre et aux disciples qui étaient avec lui, mais à travers sa parole, il s'adresse à nous et ce qu'il déclare est toujours vrai, toujours d'actualité. Cela nous concerne, nous aussi. Et ces vérités que Jésus déclare, elles continuent de nourrir notre conception de la communauté chrétienne, elles doivent continuer de nourrir cela. Jésus s'était probablement mis à l'écart avec ses disciples à l'approche de Césarée, dans la bourgade, hein, qui est quand même éloignée. Hein. Césarée de Philippe, c'est loin de tout, loin du tumulte. Il avait besoin d'être au calme. Probablement, pour poser cette question aux disciples, il avait besoin de leur dire, bon, je l'imagine, hein, asseyez-vous, on va avoir une discussion importante. Prenons le temps. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Verset 13. Et la réponse des disciples est intéressante. Vous avez remarqué ce qu'ils disent? Ils font une liste de personnages. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces personnages? Ah oui, alors pour les nouveaux, c'est interactif, hein, ce qu'on va vivre. Allez-y. Ils sont morts, oui. Et oui, c'est quelque part. Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais Jésus serait un nouveau Jean-Baptiste, un nouveau prophète. Oui. Comme quoi? Oui. C'était pas donc n'importe qui, hein. C'est pas t'es le nouveau Bernard, un nouveau prophète, quoi, un nouveau Jean-Baptiste. On sentait bien, les gens sentaient bien que Jésus était quelqu'un de particulier, quelqu'un d'important, quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Donc c'était pas Jésus, ce gentil monsieur qui fait du bien aux gens. C'était plus que ça. C'était plutôt les gens disent que tu es un radical, en fait. Tu es un prophète. Qu'est-ce qu'on faisait aux prophètes? On les zigouillait, hein? Eh oui, parce qu'ils disaient des choses qui ne faisaient pas plaisir à entendre. Donc Jésus, aux yeux des gens, ressemble aux prophètes. Un prophète ancien et récent, comme Jean-Baptiste. Ces gens un peu fous qui proclamaient des vérités difficiles à entendre, qui les proclamaient sans concession, de façon radicale, sans compromis. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie. C'est comme cela que Jésus était perçu, comme un prophète, comme un radical. Bon. Alors on ne sait pas trop si Jésus est satisfait par la réponse de ce que pensent les gens. Il ne rebondit pas là-dessus, mais il dit, et vous, mes disciples, vous qui me suivez là depuis quelque temps, pour vous qui suis-je? Et là, qu'est-ce qui change? Que dit Pierre? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est un peu plus radical quand même, quelque part. Hein? C'est extraordinaire cette réponse, hein? Qui est juste, on le sait, elle est vraie, nous le confessons, nous le savons. Mais Pierre, lui, le porte-parole du groupe des disciples, le leader du groupe, quelque part, il répond pour tous les autres avec cette phrase, et il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'ils en avaient déjà discuté ensemble, les disciples. Ils s'étaient demandé, est-ce que c'est lui le Christ? Est-ce que c'est lui le Messie? C'est lui le nouveau David, le nouveau roi que l'on attend? C'est lui le nouveau prophète comme Moïse? Est-ce que c'est lui le Christ? Et donc quand Pierre donne sa réponse, c'est, je pense, la conclusion de tout le groupe qu'il donne aussi en tant que porte-parole. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelque part, dans sa réponse, il y a quelque chose d'encore plus radical. Donc, mais c'est une excellente réponse, vraiment excellente. La preuve, c'est qu'avec cette clé, Jésus ouvre quelque chose, ce trésor devant Pierre, un trésor de vérité, et il lui dit: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux, hein, comme le psaume 1, heureux l'homme, hein, qui fait. Je ne l'ai plus en tête, et ça ne me revient plus, mais qui trouve sa joie dans les Écritures. Et il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, etc. Heureux comme les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, etc. Heureux. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu, c'est-à-dire béni es-tu, toi qui reconnais en moi le Christ, le roi. Le Messie attendu, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu parce que cette foi, cette déclaration de foi, t'a ouvert un trésor. Heureux es-tu, toi qui as reçu cette vérité fondamentale de la part de mon Père, qui as su l'entendre, qui as su l'accepter, qui as su l'intégrer et qui as su la professer. Heureux. Regarde, un trésor s'ouvre maintenant devant toi. Et la première chose qu'il nous faut donc entendre dans ce texte, c'est cela. La communauté chrétienne, représentée par Pierre et les disciples, la communauté chrétienne a Christ comme roi. C'est la signification même du mot Christ, hein. Il est oint comme un roi était oint. Le Christ, c'est le roi, c'est le Messie. Christ, le Fils du Dieu vivant, est l'objet de notre foi, il est l'objet de notre reconnaissance, de cette identité, il est l'objet, pardon, de notre foi. Et quand on reconnaît cette identité, cela change notre identité. Quand on reconnaît que Christ est roi, notre identité change, à nous aussi. Cette foi fait de nous des gens déclarés heureux. Bénis, des gens qui ont trouvé un trésor, des gens qui ont trouvé que Christ était leur Messie, qu'il était leur roi, des gens bénis donc, des sujets d'un roi qui est bon, qui est glorieux, qui est Dieu lui-même, heureux. Première chose donc, heureux es-tu, cette déclaration, elle est pour nous aussi, nous qui déclarons notre foi en Christ, le Messie, il est le roi de la communauté chrétienne, nous sommes ses sujets. Notre identité a changé, nous sommes heureux. Mais alors, comme je le disais, une fois cette vérité sur l'identité de Jésus découverte, eh bien, un trésor s'est ouvert devant Pierre, devant les disciples, dans les paroles de Jésus qui suivent. Pierre a dû être complètement déboussolé de ce qu'il entendait, parce que c'est quand même pas commun ce que va lui dire Jésus à ce moment-là. Il lui dit: Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Bon, ok, j'en demandais pas tant. C'est sûr, si on m'en dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, au-delà du jeu de mots bien connu, et le jeu de mots fonctionne en grec aussi, hein, qu'est-ce que dit Jésus ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Sur cette pierre, je construirai mon église. On sait ce que disent les catholiques, non? Bon, on y reviendra. Oui. Sur cette déclaration de la messianité, de la royauté de Jésus, sur cette foi, oui, je construirai mon Église. Sur Pierre, ce Pierre qui vient de confesser cette vérité fondamentale sur l'identité de Christ, bien d'autres pierres seront posées, en fait. Donc il est bien question de la foi de Pierre, mais je pense qu'on peut quand même garder, un peu comme les catholiques, que c'est de Pierre dont il s'agit. C'est sur toi, Pierre, que je construirai mon Église. Mais on va nuancer un peu. Je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Pierre vient de confesser quelque chose de fondamental. Il est une pierre et sur cette pierre, d'autres personnes seraient posées. D'autres personnes qui confesseraient elles aussi Jésus comme Christ, comme roi, comme fils de Dieu, seraient posées. Autour de Pierre, le premier à avoir confessé sa foi, toute une communauté, tout un peuple serait bâti, construit. L'Église. L'Église, c'est le peuple qui a Jésus comme roi, c'est le royaume de Dieu. On va revenir aussi sur cette expression dans un instant. Donc, vous aurez remarqué que je ne dis pas, comme disent les catholiques, heureusement, vous allez me dire, je ne suis pas en train de dire que Pierre a un statut spécial dans l'Église, qu'il aurait une primauté. Je ne crois pas que ce texte nous enseigne la papauté, hein, que Pierre serait le premier chef de l'Église. Non. Par contre, je pense que Pierre est effectivement le premier. Il est le premier. Oui, le premier à avoir confessé, le premier chronologiquement à avoir confessé que Christ est roi. Il est le premier à avoir confessé cette vérité sur Jésus, la première pierre vivante, donc, de cet édifice extraordinaire qu'est l'Église. Donc il a quand même une primauté, mais une primauté chronologique, temporelle. Et je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça pour interpréter ce passage. D'ailleurs, le focus est-il vraiment sur Pierre ? Vous avez remarqué ce que Jésus dit, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est quoi le focus de ce que Jésus est en train de dire ? L'Église, et c'est lui qui va la bâtir. Eh oui, c'est pas Pierre. Hein. Toi, tu es une pierre, ta première pierre, et sur celle-ci, je vais en construire plein d'autres. Mais je construirai mon Église, je bâtirai mon Église. La communauté que nous formons, l'Église, c'est Christ qui en est le constructeur. C'est lui qui l'a construit, présentement, toujours. Ce n'est pas le pasteur qui construit l'Église, ça se saurait. Ce n'est pas un projet humain qui construit l'Église, ce n'est pas non plus une communauté qui construit l'Église. Ce n'est pas les membres de l'Église qui construisent l'Église, c'est Christ qui donne la croissance de l'édifice. C'est lui, au final, qui est non seulement le roc solide hein, sur qui repose tout l'édifice, il est la fondation, mais c'est aussi le maçon. L'architecte et le maçon, oui, on pourrait dire les deux. Celui qui vient ajouter encore et encore de nouvelles pierres. Et ça, c'est effectivement une vérité qui me semble extraordinaire. C'est la première vérité dans ce trésor que déclare Jésus, une vérité fondamentale à retenir. La croissance de l'Église, la croissance de la communauté chrétienne, elle ne dépend pas au final de nous. Elle dépend de Christ. Elle dépend du bâtisseur, pas des pierres, du bâtisseur. Jésus remet quelque part les choses dans l'ordre, ou il les met dans l'ordre tout simplement pour Pierre. Alors bien sûr, nous œuvrons. Hein. Nous proclamons notre foi, nous ne gardons pas ça pour nous. Nous ne sommes pas des pierres inactives, mortes, nous sommes des pierres vivantes, bien sûr. Nous organisons la communauté, etc. Mais c'est Christ qui conduit et qui construit. Et en quoi est-ce que c'est une bénédiction, à votre avis, que de savoir ça? Qu'est-ce que vous diriez? Une sécurité? Intéressant ce mot. C'est une sécurité. Ouais. Quoi d'autre? C'est un repos. Ouais, ça, c'est un soulagement. Tout à fait. Repos, c'est le mot que j'avais choisi aussi. C'est une bénédiction parce que c'est une vérité repos contre notre orgueil si naturel ou contre notre inquiétude aussi. Est-ce que je vais réussir à faire grandir l'Église? Est-ce qu'on va pas? Est-ce qu'on prend un mauvais chemin, etc. Oui, c'est une bénédiction qui est en fait un repos pour nous. La communauté que nous formons sait que Christ est ultimement celui qui fait croître et que nous n'avons pas à nous enorgueillir quand nous grandissons. Donc, puisque c'est Christ le bâtisseur, nous n'avons pas à nous inquiéter non plus quand nous ne grandissons pas. C'est Christ le bâtisseur. Nous, nous faisons ce que nous avons à faire, ce à quoi nous sommes appelés. Notre repos, ce n'est pas de l'oisiveté, on le sait, il ne faut pas confondre. Mais notre repos, il est en Christ. Nous lui faisons confiance. C'est lui le bâtisseur, c'est lui le maçon. C'était lui l'architecte et il conduit les travaux. Ça, je le sais en tant que pasteur. Hein, la tentation de l'orgueil est énorme, hein, surtout quand on a une église qui grandit, on peut se dire, oh là là, regardez, depuis que je suis là, formidable. Mais je suis aussi passé par des moments de terrible découragement, de voir une église qui ne va pas bien, des gens qui partent, et je peux aussi me sentir responsable. Mais c'est Christ, le bâtisseur, c'est lui qui règne sur son Église. Et il a un projet, il est en train de l'accomplir. Je n'ai ni à m'enorgueillir, ni à m'inquiéter. J'ai simplement à me reposer sur lui et être là où il m'appelle. Et ça, c'est vrai de chacun de nous, pas seulement des pasteurs, évidemment. Bien. Mais alors Jésus continue. Et il montre maintenant à Pierre ce qu'il y a d'autre dans son trésor. Tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église. Et, encore une expression détonnante, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce que dit Jésus ici, selon vous? Elle n'aura pas de fin, oui. Qu'elle n'est pas en danger. Elle ne va pas mourir, elle n'est pas en danger de s'écrouler. Et oui, il lui dit maintenant qu'il est non seulement le constructeur de cette communauté, donc à Pierre et aux disciples qui se trouvent là. Les disciples qui trouvent en Jésus leur roi ont trouvé un constructeur. Et maintenant, il leur dit, je suis aussi votre protecteur. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Cette expression, les portes du séjour des morts, on pourrait aussi la traduire par la puissance de la mort. La puissance de la mort, cette puissance est immense, énorme, engouffrante. Cette puissance-là ne prévaudra pas contre vous. En gros, ce que Jésus annonce ici, c'est que la communauté de ceux qui confessent qu'il est roi, cette communauté que Jésus lui-même construit, cette communauté-là ne connaîtra pas la mort. Donc, que cette communauté des croyants, Jésus la tient dans sa main, qu'il ne la lâchera jamais, bien construite, bien établie sur de fondations solides, sur du roc, composée de pierres solidement attachées les unes aux autres. L'Église n'a pas à craindre la puissance de la mort. Ça aussi, c'est un soulagement quand même. Nous n'avons pas à craindre la mort. Nous n'avons pas à craindre de disparaître. Pourtant, les portes du séjour des morts sont grandes ouvertes. Elles tentent d'aspirer l'Église dans la mort sans cesse. Mais non, l'Église tiendra ferme, elle restera ancrée dans la vie que lui donne Jésus. Jésus ne la laissera pas s'engouffrer dans la mort. Mais concrètement, ça veut dire quoi ça pour nous? Qu'est-ce que ça change? À quoi est-ce que ça peut ressembler pour nous que de connaître, que de savoir, que d'avoir cette conviction-là, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Qu'est-ce que ça vous fait? En quoi ça peut changer votre quotidien en tant que communauté? Oui, nous sommes vivants, éternellement vivants en Christ, notre Seigneur. Oui, bien sûr. Oui. Ben oui. Non. En Christ, nous sommes en sécurité. C'est lui la puissance. Mais il a vaincu la mort. Et c'est pas rien. Donc oui, on peut être l'Église triomphante. En Christ qui a triomphé. C'est pas nous, on s'enorgueillit pas d'avoir triomphé contre la mort. Hein. C'est lui qui a triomphé pour nous. Mais nous n'avons pas à craindre donc. On peut même, oui, on peut chanter, on peut danser, on peut dire notre joie d'avoir en Christ vaincu la mort, nous, avec lui. Il y aura toujours une église. Ça, c'est énorme. Hein, toujours. L'église n'est pas en danger. Il peut y avoir des tentations. L'église peut traverser des tentations terribles de s'éloigner de Christ, de ne plus se centrer sur lui. On en connaît peut-être hein, des églises comme cela, qui abandonnent leur confession de foi. Dès le premier siècle, dans les Écritures, on voit des églises qui tergiversent un peu et qui commencent à s'éloigner. Elles deviennent un peu moues du genou. Et elles s'affolent ou elles s'inquiètent ou elles ont peur. Du coup, elles changent leur doctrine. La centralité de Christ vient plus aux marges qu'autre chose. Ça existe. Il y a des épreuves aussi que l'Église peut rencontrer. On peut passer par des temps de découragement terribles. Déjà dans le Nouveau Testament, on voit ça, relisez l'Épître aux Hébreux. C'était complètement découragé, ces pauvres gens. C'était passé par des persécutions terribles. Beaucoup étaient morts, etc., avaient été mis en prison. Bon, c'était fini. Puis paf, ça revenait. Oh. Que faire ? On était quand même plus en sécurité dans le judaïsme. Et si on abandonnait toute cette histoire de Jésus, là, on serait quand même plus confort. C'est vachement tentant. Très tentant pour cette communauté. Le découragement, la tentation de l'abandon de la foi, et puis les persécutions diverses et variées. On pourrait continuer la liste, hein, mais concrètement, face à toutes ces choses-là qui viennent attaquer l'Église, qui viennent tenter de l'aspirer dans la mort, qui la mettent en véritable danger, l'Église peut tenir. Christ est vainqueur. Les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. Bref, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves pour l'Église et pour les communautés chrétiennes. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne seront pas persécutés, que certains mourront même en martyr à cause de leur foi, mais cela veut dire que Christ nous tient dans sa main, oui, qu'il nous protège de la mort éternelle. Malgré les épreuves, ni les croyants, ni l'édifice ne seront jamais engloutis dans la mort spirituelle. Alors là aussi, nous trouvons bien sûr un réconfort extraordinaire, l'Église de Jésus-Christ. Celle qui confesse que Jésus est roi, celle que Christ construit, c'est une église qui vit éternellement. Son avenir n'est pas en danger. Nous n'avons pas à craindre pour elle. Parfois, on s'inquiète pour l'église. Hein. Il y a des... l'église au sens large. Hein. On s'inquiète pour elle au sens large. Oh, ça va mal. L'église de France, ça va mal. L'église dans le monde occidental, ça va mal. Dans mon église, ça va mal. On s'inquiète parce qu'elle est persécutée, on s'inquiète parce qu'une grande tribulation vient, etc. Mais Christ dit ici à Pierre, et il nous le dit à chacun, l'église tiendra. C'est moi qui la tiens. C'est moi qui la protège. La mort ne prévaudra pas contre elle. J'ai vaincu la mort. Et là encore, bien sûr, il n'est pas question pour la communauté de se reposer sur ses lauriers. Oh, bah, c'est bon alors. J'ai mon ticket, j'ai mon assurance vie. C'est tout bon, je me repose. Non. Non, non, non. Je sais que mon avenir est assuré. Je sais que l'avenir de l'Église est assuré. Mais ça ne veut pas dire que j'ai le droit de retourner dormir. Ce que ça veut dire, ce que Jésus veut dire ici, c'est que cette assurance qu'il nous donne, c'est l'assurance que nous pouvons placer notre entière confiance en lui. Pas en nous-mêmes, en lui. Il a vaincu la mort, il nous a offert la vie et son projet, c'est un projet de vie pour l'Église. Je peux lui faire confiance. Donc on n'a pas à être affolé par les rumeurs de mort, on n'a pas à être affolé par tous ces oiseaux de mauvais augure, ces prophètes de malheur qui nous prédisent des choses terribles, qui nous prédisent des dangers, etc., extrêmes, qui nous prédisent la fin de l'Église. Non, Jésus protège son Église. C'est une promesse qu'il a faite. Il l'a faite aux premiers chrétiens, Pierre lui-même, les autres chrétiens qui étaient là autour de lui, les disciples. Et cette promesse, elle est pour nous aussi. Il faut le redire, il faut le rappeler. Nous n'avons pas à craindre la mort. L'Église tiendra. C'est une colonne qui tient. Je pensais à ça tout à l'heure. Ce n'était pas du tout un temple chrétien, mais la maison carrée, elle est quand même en bon état, quoi. C'est du solide. Alors, ce n'est pas du tout chrétien. Ça, on est d'accord. Mais à combien plus forte raison l'Église de Jésus-Christ est encore plus solide que ça. Et elle tiendra. Bien. Mais alors continuons avec ce trésor à fouiller un peu dans ces vérités que Jésus a déclarées là, sur la communauté chrétienne, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle doit savoir d'elle-même. Que veut dire Jésus quand il déclare cette phrase énigmatique, encore une fois, du verset 19 ? « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous avez déjà essayé d'interpréter ça ? Oui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas forcément réussi à l'interpréter, ça vous voulez dire ? On a essayé. C'est très très mystérieux. Hein, en tout cas dans notre langage actuel. On se demande bien ce que ça peut vouloir dire. C'est une traduction assez littérale hein, que je propose là, que l'on trouve dans les Écritures. C'est le verbe lier, délier. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a vu que Jésus est le centre. Il est le roi de la communauté chrétienne. Il est celui qui bâtit la communauté chrétienne et celui en qui la communauté peut placer son entière confiance parce qu'elle est en sécurité en lui. Il la protège de la mort. Et au final, maintenant, je pense que Jésus est là, dans ce passage, en train de dire qu'il est aussi celui qui la nourrit, cette communauté. Alors je sais, vous trouvez ça sûrement un peu bizarre. Vous ne voyez pas le rapport entre le fait de lier et délier et le fait d'être nourri. Mais je vous ai expliqué pourquoi. En quoi est-ce que ce que dit Jésus est indicatif ? Du fait qu'il nourrit l'Église. Eh bien déjà, il faut savoir que l'expression « le royaume des cieux », on va commencer par le début, « le royaume des cieux », ça désigne la communauté du roi. Hein, qui dit « royaume des cieux », « royaume de Dieu », c'est une communauté dont il est question. C'est un royaume, et un royaume, c'est des gens. Hein. Ce n'est pas un espace, ce n'est pas une géographie, c'est des gens. Le royaume de Dieu, c'est l'Église, c'est la communauté, au sens large du terme. Ça désigne la communauté du roi. La communauté chrétienne dont Jésus est le roi. Et Jésus, donc, donne maintenant à Pierre et aux disciples des clés, c'est-à-dire une autorité, une capacité. Pierre et tous les autres disciples, les croyants avec lui et après lui, tous reçoivent les clés du royaume des cieux. Et je dis bien tous parce que deux chapitres plus loin, en Matthieu 18, Jésus va dire la même chose, mais il va employer le pronom « vous hein. ».« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc, ce qu'il dit à Pierre en tue, il le dit plus tard aux disciples. C'est la même chose. Donc, l'autorité, la capacité sont données à la communauté chrétienne, à ceux qui croient. Et cette autorité, cette capacité, c'est celle de lier et de délier. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Vous avez déjà entendu des choses à ce sujet? Est-ce que Norbert a déjà prêché là-dessus? Non, pas souvenir. Ah oui. Ça peut être farfelu, hein, bien sûr. Ouais. Bon, bah, je vais vous donner mon interprétation. La bonne. En tout cas, je vous donne, propose mon interprétation, ma conviction aussi, et vous en ferez ce que vous voulez, évidemment. En fait, lier et délier dans les Écritures, c'est du vocabulaire juridique. Lier et délier, c'est l'action d'un législateur, celui qui dit la loi, qui dit celui qui est permis et ce qui est interdit. Il lie et il délie dans les Écritures. Donc, lier et délier, ça évoque ce qui est approprié de croire, de penser et de faire pour le peuple de Dieu. D'accord? Un peu comme l'Assemblée nationale va dire la loi, la décider et nous dire donc, en tant que citoyens français, voilà ce que vous devez faire. Voilà ce qu'est la loi. C'est du vocabulaire juridique. Et cela, bien sûr, c'est ce que fait l'Église en se basant sur l'enseignement de Jésus. L'Église n'invente pas, Pierre ne va pas avoir à inventer ce qu'il est bon de croire, est-ce qu'il est bon de penser, est-ce qu'il est bon de faire. Il reçoit cet enseignement de la part de Jésus et il le déclare à sa suite. Donc Jésus est en train de dire à Pierre que lui, Pierre, et toute la communauté chrétienne avec lui, devra fidèlement dire ce que Jésus disait. Enseigner ce que Jésus enseignait, se nourrir de l'enseignement de Jésus, donc. Tout ce qui est déjà établi dans les cieux, toute la vérité, l'enseignement, la volonté de Jésus lui-même, cela devra être dit, cela devra être proclamé et enseigné sur la terre par les disciples. C'est le sens de la conjugaison des verbes, en fait, hein, littéralement. Il aurait fallu traduire, me semble-t-il, ce que tu liras sur la terre devra avoir été lié dans les cieux. Ce que tu liras sur la terre, ce que tu proclameras sur la terre comme étant la vérité, comme étant ce qu'il faut faire, croire et dire, devra avoir été lié, enseigné dans les cieux. Ce que tu as reçu de Christ, dis-le à sa suite. Alors, je. Oui, je crois, effectivement. Il faudrait vérifier dans leurs textes, les textes catholiques, du catéchisme catholique, etc. Mais effectivement, ça fait sens, hein, que ça donne du poids à la tradition. Ce que toi, Pierre, tu diras, ce que tes successeurs diront, ça fera loi. Ça fera loi. Et je crois que ce n'est pas ce qu'est en train de dire Jésus. Est en train de dire ce que tu as reçu, ce qui est lié dans le ciel, dans les cieux, dis-le. Ce que je te donne, tu le donnes. Ce que tu as reçu, tu permets à d'autres de le recevoir. Oui, est-ce que. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que beaucoup de traducteurs vont un peu au plus simple là. Ouais, c'est dommage. En tout cas, on perd quelque chose. Hein, et le grec, est, à mon sens, clairement, va dans le sens que je propose. Hein. Ouais. Aura été lié dans les cieux. Ouais. C'est quand même aussi du futur, mais comment on dit, c'est quoi le aura été futur antérieur, voilà. Et oui. Oui, alors il faut regarder dans les dictionnaires tout simplement, et voilà, c'est clairement un vocabulaire d'ordre juridique employé par les législateurs qui lit, qui délit. Pour ça qu'on a aussi souvent pensé que c'était de l'ordre du pardon, ou de la remise de dette, ou au contraire du fait de garder la dette. Il y a quelque chose, voilà, d'un juge qui déclare, qui dit. Et d'autres textes, ben, on pense à Jean, on va aussi, semble aller dans ce sens aussi. Hein, ceux à qui tu pardonneras seront pardonnés, etc. Ouais, même si là encore la traduction est compliquée, mais voilà, c'est bien du vocabulaire juridique, ça c'est une certitude selon moi. Donc voilà, Pierre et toute la communauté chrétienne avec lui doivent se nourrir de l'enseignement de Jésus. Mais c'est lui qui nourrit. C'est pas Pierre qui nourrit l'Église. C'est Jésus qui la nourrit. Pierre répète. Il apporte la nourriture du Christ. Un peu comme bah, les disciples sont venaient à Jésus récupérer le pain pour l'amener aux foules. Il revenait à lui, repartait vers la foule. Il en va de même pour l'Église qui doit fidèlement dire l'enseignement de Jésus. Ça vous va? Eh oui. L'interprétation, bon, catholique, mais c'est vrai que classiquement, on a tendance à voir Pierre un peu comme le maître de tout ça, quoi, hein, l'instigateur de tout cela. Mais en fait, dans ce que je propose là, vous aurez remarqué effectivement que c'est Jésus qui donne à chaque fois. Hein. Pierre, il est nommé, oui. Parce que c'est le premier. Mais à travers Pierre, c'est Jésus qui œuvre. C'est lui qui construit, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui protège, etc. Christ au centre. Et si c'était vrai pour Pierre, à combien plus forte raison est-ce vrai de moi en tant que pasteur, de Norbert et de tous les autres, hein, et de vous-même? Hein, c'est Christ qui est au centre. Oui. Oui, quelque part ça colle aussi. Alors bon, c'est un peu plus hypothétique, on va dire. Mais c'est vrai que Pierre a eu un rôle de pionnier. Hein, dans les Actes, on le voit. Hein, c'est effectivement lui qui, par lui que ça commence, quoi, l'ouverture de l'Église aux païens, la prédication à la Pentecôte, puis à Corneille en Acte 10. Oui, il était premier. Mais toujours premier chronologiquement. Hein. Ça, c'est important. C'est pas une primauté de statut. C'est une primauté chronologique. Alors, c'est pas rien. Hein. Je suis pas en train de dire que ça vaut rien tout ça. Non, quand même. Quelle confession de foi. Il nous a offerte là. Il a donné quel discernement il a pu avoir grâce à Dieu. Jésus le dit lui-même. Grâce à l'Esprit qui l'enseignait, qui agissait en lui. Mais on peut respecter le bonhomme pour cela. Hein. Entre les disciples et nous? Ouais. Alors, ça va un petit peu controversé. Disons qu'on va dire que pour certains, les disciples, les apôtres, ont quand même ce statut très spécial dans les Écritures. Sur eux repose le fait de poser les fondements théologiques. Et ils les ont posés dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Et ensuite, nous, on se réfère à eux, tout simplement. Et je crois que globalement, c'est correct, bien sûr. Ils ont eu ce rôle de fondation doctrinale. Eux ont entendu Jésus enseigner et ils ont mis par écrit, ou ils l'ont enseigné à l'Église qui l'a mise par écrit. Ils ont quand même un rôle fondamental là-dedans. Mais Mais je trouve et je remarque que dans les évangiles, quand même, le lien est très souvent fait entre les disciples et ceux qui viendront après eux, qui auront cette même responsabilité de se souvenir, de dire, d'enseigner, etc. Les fondements ont été posés dans les Écritures par les apôtres, ça c'est sûr et certain. Mais nous sommes nous aussi envoyés. Nous sommes comme les disciples étaient envoyés. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça nous concerne aussi, pas que les 12, à mon sens. Bon, faudrait expliquer comment ça fonctionne. Et ça peut être assez long, mais pour moi, le lien est quand même très fort. Quand Jésus s'adresse aux disciples, aux 12, il s'adresse à l'Église. Et donc, il s'adresse à nous. Je crois qu'il faut maintenir ce lien-là, tout en reconnaissant que les apôtres ont posé des fondations doctrinales. Le bon dépôt, il vient d'eux. Enfin, il vient du Christ, mais c'est eux qui l'ont posé pour l'Église. Bien. Donc voilà, les disciples, la communauté des disciples que nous formons, nous devons dire ce qui est déjà lié dans les cieux, continuer de le proclamer, par exemple, dire fidèlement, continuer de dire fidèlement qu'il est nécessaire de croire pour entrer dans le royaume des cieux, dans l'Église, hein, que c'est pas t'as envie d'y être, bah vas-y. Non, il y a une foi qui est nécessaire, hein, quelque chose à croire, à dire, à proclamer. C'est dire aussi, et ça prend aussi beaucoup de courage parfois, selon les contextes, hein, dire le comportement approprié pour celles et ceux qui font partie du royaume des cieux. L'Église a une responsabilité éthique, de proclamation d'une bonne éthique, d'une loi, d'un comportement, la loi du Christ, à donner, à offrir, à proclamer encore et encore. Et on sait combien c'est difficile d'être fidèle dans cette proclamation-là, de dire les choses, d'oser aller à contre-courant de la société, parfois même au sein de l'Église. Ça tiraille, c'est difficile. Mais il faut garder cette fidélité-là aux Écritures, à l'enseignement du Christ. C'est cet appel, c'est cet envoi qu'offre là Jésus à Pierre et à l'Église. Dire aussi où se trouve la source de la vie, qu'elle se trouve en Jésus et nulle part ailleurs, dire les promesses de Jésus, combien on a besoin de les entendre encore et encore, les promesses de Jésus, pas les promesses d'un autre, hein, parce qu'il y a aussi, il y a des prophètes de malheur, mais il y a les prophètes de bonheur qui nous promettent n'importe quoi. Poursuis ton rêve et tu trouveras le bonheur. Bah, non, des fois, tes rêves, ce n'est pas les bons, tout simplement. C'est pas comme ça que ça marche, hein. C'est pas parce que tu veux quelque chose que tu l'auras. Qu'est-ce qu'on en entend comme bêtise? Et l'Église, elle doit être réaliste, elle doit avoir proclamer des choses et des promesses qui viennent du Christ, pas d'ailleurs. Dire l'espérance donc des chrétiens, dire le projet de Dieu pour son Église, qui est un projet de paix et non de malheur. Bref, nourrir l'Église de l'enseignement de Jésus lui-même, cet enseignement que l'on trouve, nous, dans les Écritures. C'est Christ qui nourrit l'Église. Et notre responsabilité à tous, en tant que communauté chrétienne, eh bien, c'est de nous laisser nourrir. Hein? Comment on se laisse construire, comment on se laisse protéger, comment on laisse Christ régner sur nous. On se laisse nourrir. Mais c'est actif, cela. Hein? Jésus ne va pas nous nourrir si on n'a pas envie d'être nourri de lui. Il faut aller manger. Il faut recevoir sa nourriture et la manger. Et ne pas aller chercher la nourriture ailleurs. Sais pas à quoi vous pensez quand je dis ça, mais il y en a des endroits où on peut aller se nourrir, mais où on ne trouvera pas la parole de la vie, que ce soit dans les médias, sur Internet, dans des livres ou je ne sais quoi d'autre. Il y a énormément de bonnes choses qui nous sont offertes, mais il faut user de discernement et voir et comparer avec ce que Jésus nous dit. Donc discerner, oui, ce que nous entendons. Si ce que nous entendons vient bien de lui et non du diable, au final. C'est une charge lourde qui est donnée à Pierre et aux disciples ici. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère, nous non plus, dans nos communautés. Se laisser nourrir de la bonne nourriture du Christ, pas d'une autre nourriture. Alors voilà, frères et sœurs. J'espère que ce passage est maintenant plus clair pour vous. En tout cas, je vous ai donné ma compréhension de la chose, mon enseignement, mon interprétation. J'espère que ça vous convient. En tout cas, que ça va être quelque chose qui va vous interpeller encore pendant la nuit, peut-être, vous nourrir, vous faire réfléchir. Mais surtout, j'espère que nous réalisons quand même maintenant que notre communauté, que votre communauté ici à Nîmes, doit être une communauté totalement centrée sur Christ pour exister, pour vivre, pour grandir. Si elle n'est pas centrée sur Christ, elle va s'effondrer. Si sa confession de foi n'est plus centrée sur Christ, comment elle va tenir ? Et ça, c'est vrai pour l'Église et c'est vrai individuellement aussi, évidemment. Combien je le vois, c'est une tristesse. On voit des gens qui, dans leur confession de foi, dévient petit à petit et quand vient l'épreuve, il n'y a plus rien qui les tient. C'est dramatique. Et ça peut être vrai de l'Église aussi. Si on cesse d'être centré dans notre foi sur le Christ, nous sommes bien moins solides. On n'est plus centré sur le roc, fondé, posé sur le roc. Si on se repose sur nos propres forces, les portes du séjour des morts, elles deviennent quand même drôlement, drôlement aspirantes. Mais si on se repose sur Christ, là, ça tient. Donc une communauté centrée sur Christ, c'est cela. Une communauté qui confesse Jésus-Christ comme roi, qui s'est construite par Christ, qui place sa confiance en Christ, qui a vaincu la mort, et qui se nourrit de Christ et de son enseignement. Voilà le trésor de vérité que Jésus a offert à Pierre, qui ne s'y attendait probablement pas, et qui nous donne de voir, d'expérimenter encore ce soir. Alors mon encouragement pour vous et pour nous, c'est que nous ne perdions jamais de vue la centralité de Christ dans nos communautés respectives et dans chacune de nos vies de disciples aussi, ça va avec. Que nous nous plongions encore et encore dans ces trésors qu'il nous offre à partir du moment où nous croyons et que nous n'oublions jamais que nous appartenons au Christ, que nous nous reposons sur lui, que nous trouvons notre sens, notre identité en lui, que nous vivons par lui, que nous vivons pour lui, que nous grandissons grâce à lui. Que nous nous nourrissons de lui. Bref, qu'il est notre tout, notre centre, notre focus. Amen. Alors, petite question pour peut-être permettre d'approprier tout ça ici, à Nîmes, dans votre communauté. J'aurais des choses à dire sur ma communauté, mais ce n'est pas le sujet. Vous. Est-ce que vous voyez dans tout cela, des faiblesses dans votre communauté ou des risques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi le contraire de confesser Jésus-Christ comme roi? Quel peut être l'écueil dans lequel on tombe? Une idée? Parfois, en tant qu'église, est-ce que vous croyez qu'on peut être des églises idolâtres? Ouais. Dans certains sujets, pas surtout, mais dans certains sujets, on remplace Christ par autre chose. On tombe dans une forme d'idolâtrie, on se sépare, on se déplace, on est moins centré sur lui. On croit des vérités qui sont en fait des mensonges, bien plus fortement qu'on croit la vérité du Christ. Il y a des choses qui prennent la place de Christ parfois dans nos communautés. C'est un vrai risque. Bon, je ne sais pas si c'est un risque pour vous, mais ça peut l'être. Ou ce savoir construit par Christ, c'est quoi l'inverse? Ouais, c'est l'orgueil, hein, de croire que c'est nos propres forces. C'est nous qui avons bâti cette église-là. Si elle est si belle aujourd'hui, c'est parce qu'on a œuvré, on a transpiré. Ouais, ouais. C'est vrai pour le bâtiment, mais c'est vrai pour les gens aussi. On est allé les chercher, c'est pour ça qu'ils sont venus. Et ce n'est pas totalement faux, et c'est ça qui est insidieux. C'est là qu'il faut faire attention, ne pas tomber dans l'orgueil, dans l'autosuffisance. Quand on place sa confiance en autre chose qu'en Christ qui a vaincu la mort, c'est quoi l'inverse de ça? C'est quoi le contraire? confiance en nous-mêmes, oui, on est suffisamment fort. Ou alors, ou la peur. Ouais. La crainte, la peur. Hein. Se sentir trop fragile. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais la pandémie, là, ça a quand même mis en lumière des peurs hein, dans l'Église. Très fortes chez les chrétiens. Ouais. Et dans les communautés. Hein. Alors, la peur de mourir, bien sûr, la peur d'être malade, mais aussi la peur du qu'en dira-t-on, peur que les médias nous tombent dessus, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a eu peur hein, avec ce qui est arrivé à Mulhouse, après toutes les églises évangéliques. Ouf, il ne faudrait pas que ça nous arrive à nous aussi. Non. Qu'est-ce qu'on a eu peur? Et qu'est-ce qu'on nous disait qu'il fallait avoir peur? Bah non, je n'avais pas envie d'avoir peur de ça, moi. On ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr, on fait les choses bien, mais pas parce qu'on a peur. Pas parce qu'on a peur. On respecte les lois, on fait ce qui est bon, ce qui est juste, mais pas parce qu'on a peur. Et puis, si nos rires de Christ et de son enseignement, l'inverse, ben, pareil, hein, c'est une forme d'autosuffisance. Ce que je vais dire est suffisant et c'est très bien. Ou alors c'est tombé dans une sorte de tiédeur. Oui, c'est bien ce que dit Jésus, mais bon, il faut relativiser, il faut nuancer. Aujourd'hui, on ne peut plus dire les choses comme ça, etc. Puis insidieusement, chut. Pardon ? Les modes ? Carrément, oui, oui. Et puis on aime pas aller à contre-courant, hein, c'est pas facile, mais... On est une société qui, à bien des égards, ça a toujours été, hein, c'est pas nouveau, mais ça part à volo, quoi. C'est décalé, c'est difficile de tenir. Et encore une fois, ben, les médias et autres, ou même des lois, parfois, viennent nous mettre à mal, hein, les choses qu'on risque prochainement de plus avoir le droit de dire. Et il y a des endroits dans le monde où c'est déjà le cas. Aujourd'hui, en France, ça nous pend au nez. Sur certains sujets, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer de se nourrir de lui, de son enseignement, pour pouvoir le dire à notre tour, le transmettre, ou est-ce qu'on va se taire, ne pas oser? Alors, c'est quoi le risque chez vous? Oui, c'est difficile, hein, cette question. Où ça va? Pas de problème. Je crois qu'on reconnaît plus facilement dans nos propres vies quel peut être le danger, le risque pour notre communauté, mais je trouve que ça vaut le coup en communauté, hein, sans se faire mal avec, hein, pour que ce soit un encouragement, justement, une exhortation à tenir ferme, à grandir, sans dire ah bah ça on le fait mal pas à cause de lui. Non. Mais pouvoir se remettre en question, parfois, c'est bien, c'est bon. Oui.
Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. On est fort pour dire que Jésus est Seigneur, qu'il règne. Est-ce qu'il règne vraiment partout, sur tout dans nos vies, sur le moindre contour de nos cœurs, de nos vies? Où est-ce que j'ai mon petit jardin secret là qui m'appartient? Je fais ce que je veux avec ça. Christ y règne sur le reste, mais ça, c'est moi qui règne là-dessus. Là. Et dans nos communautés, ça peut être ça aussi. Hein. Oui, Christ règne sur tout, mais les finances, c'est moi qui les tiens, par exemple. Je ne sais pas s'il y a un trésorier parmi nous, mais ce n'est pas contre lui. Mais je pense que dans nos communautés, je ne connais pas beaucoup d'églises. Moi, j'essaie de vivre ça dans la mienne, de le rappeler, en tout cas, je ne sais pas comment c'est reçu, mais de rappeler, quand on vote un budget, on le vote en obéissance à Christ, parce qu'on a discerné. Ce n'est pas juste un mauvais moment à passer en Assemblée Générale. On est là, dans la présence du Christ, on se dit, qu'est-ce qu'on va dépenser comme argent? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner, etc. En communauté, on réfléchit, parce que Christ règne sur nos finances. Ah, je crois qu'on a du boulot là-dessus. Hein. Parce qu'on les voit, les gens, partir au moment des finances. Oh là là! Ouais. En tout cas, je ne sais pas s'il y a des faiblesses particulières ici, dans votre communauté, dans ces quatre domaines-là, mais les quatre domaines sont à risque. Hein. Il faut être vigilant dans tous ces domaines-là. C'est vraiment essentiel. Rester centré sur le Christ dans tout ça. Et on pourrait sûrement rajouter d'autres domaines aussi, mais voilà. C'est jamais acquis. C'est jamais dû une fois pour toutes. Hein, tous les jours, il faut se repositionner en communauté, comme individuellement. Redire, oui, tu es mon Seigneur et le Seigneur de toute ma vie. Oui, c'est toi qui me construis, c'est toi qui me nourris, c'est toi qui me protèges. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien sans toi. Et nos communautés, Norbert le disait très bien en introduction d'ailleurs, nous ne serions pas là si toi tu n'étais pas là. Alors, se recentrer sur le Christ. Vous voulez qu'on le fasse là, prier ensemble, le louer, le rendre gloire, et puis nous engager à nouveau à le mettre à la première place et au centre, au cœur de nos vies et au cœur de notre Église. Prions. Que chacun se sente libre. On est un temps de louange ensemble.